Quartz Livre. Philippe Conjusti.
Aujourd'hui, je rencontre Benjamin Campion, auteur de Histoires sexuelles des séries américaines parues aux éditions Leitmotiv. Bonjour.
Bonjour.
Un tel titre laisse facilement augurer qu'il est question dans cet ouvrage de Sex in the Series. Benjamin Campion, vous qui êtes enseignant à l'université de Montpellier et chargé de cours à celle de Lille, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, étiez sans doute le mieux placé pour vous attaquer à un tel sujet. Votre monographie des plus charnues raconte donc la lente évolution de la représentation du sexe à l'écran dans les séries américaines alors qu'il se glisse partout dans le quotidien. Vous démarrez dans les années 50 où la sexualité brillait par son absence pour raison de mœurs et arrivez à aujourd'hui où l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo ont entre autres eu pour conséquence la création d'un nouveau métier indispensable sur les plateaux de tournage américains, celui de coordinateur d'intimité, un intermédiaire entre le casting et la production. Avant toute chose, Benjamin Campion, j'aimerais vous demander ce qui vous a motivé à vous attaquer à un sujet comme celui-ci, en quoi c'était important pour vous de réaliser cet ouvrage.
Au début, c'était la volonté d'étudier ce qu'on pouvait présenter dans les séries télévisées en comparaison du cinéma, parce que moi je suis un cinéphile au départ, un passionné de cinéma, et au cinéma, évidemment, j'ai découvert des films qui m'ont bouleversé, qui m'ont estomaqué, parce que je me disais, ah oui, on peut voir ça, mais dans le cadre d'une salle obscure, et c'est vrai que ça s'y prêtait. Quelques souvenirs, par exemple, de L'Empire des Sens, qui est vraiment un film bouleversant, une expérience extraordinaire, vraiment dans tous les sens du terme. Et je me disais, mais est-ce que dans les séries, on peut aller aussi loin? Alors, a priori, la réponse instantanée, c'était de dire non. C'était beaucoup plus bridé, parce que industrie plus marquée, commerciale, publicité, etc. Et donc la question, c'était d'explorer la représentation, enfin les représentations limites. Au départ, j'avais une perspective assez large, sans me focaliser sur le sexe. Et en fait, c'est mon sujet qui m'y a amené. C'est tout un travail qui m'a amené à cette précision-là, parce que je me suis rendu compte, notamment dans les séries américaines, que la violence était beaucoup moins encadrée, surveillée, et que elle avait beaucoup plus sa place. Bon, c'est des questions culturelles aussi. On est dans une société qui laisse la place au port des armes, par exemple, et puis on entend l'actualité qui en parle beaucoup, et sans vouloir être trop caricatural, une société quand même assez puritaine culturellement, et donc le sexe, la nudité et le sexe sont les points sensibles, clairement. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à me focaliser, à me concentrer là-dessus, et de fil en aiguille, j'ai exploré, alors moi plus spécifiquement les séries de HBO au départ, parce que ma thèse portait là-dessus, mais j'ai étendu le spectre pour faire cette histoire plus large et pour voir de où on venait et pourquoi HBO faisait une différence. Donc c'était une contextualisation pour pas être juste focalisé sur cette chaîne et pas avoir de vision plus large de ce phénomène.
Et pourquoi HBO au départ? C'est parce qu'elle a marqué un tournant dans l'histoire des séries?
Je pense clairement que HBO, c'est vrai que c'est une chaîne charnière. S'il n'y avait pas HBO, clairement, les séries américaines n'auraient pas le visage qu'elles ont aujourd'hui. Après, il y a toute une histoire, il y en a d'autres, il y a Showtime, il y a Stars, il y a d'autres chaînes. Puis maintenant, il y a les plateformes de streaming. Mais à mon sens, les séries aujourd'hui, au moment où on se parle, n'auraient pas le visage qu'elles ont s'il n'y avait pas eu HBO. Parce que cette chaîne a pris des risques, a voulu justement contrecarrer ce qui se faisait à l'époque. Elle a un fameux slogan, c'est pas de la télévision, c'est HBO. Donc justement, se rapprocher des autres arts, s'intéresser au cinéma, à la peinture, à la littérature, et pour certains auteurs, créer l'équivalent du grand roman américain en télévision. Et donc cette chaîne-là a eu ces ambitions-là. Alors surtout, je ne veux pas caricaturer en disant que c'est la seule, etc. Mais disons qu'elle a eu une influence très importante, et notamment en termes de nudité et de sexe, et j'y ai trouvé énormément d'exemples.
Mais avant, dans les années 50 jusqu'aux années 80 à peu près, rien ne se passe en dessous de la ceinture, en tout cas à l'écran, quoi.
Visuellement rien, par l'allusion, par la métaphore, par les analogies, par les paraboles, oui, évidemment, c'est un jeu, c'est un jeu aussi pour les auteurs de s'amuser avec cette censure qui les bride, qui les rend fous. Quelqu'un comme Paddy Chayefsky, par exemple, qui était un dramaturge, et quand il parlait de la télévision, il disait que ça le rendait fou, parce qu'il il y avait des tas de sujets qui étaient interdits, qu'on pouvait pas parler d'avortement, même de grossesse, il y avait des mots qui étaient imprononçables, d'homosexualité, etc., etc. Non, c'est vrai que ces premières décennies, finalement, c'est une première partie de mon livre, mais qui est pas la plus conséquente, parce que, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas énormément de choses à en dire, et que... Il y avait en gros trois grandes chaînes, NBC, ABC et CBS, qui se concurrençaient. C'était un système très tenu, très cadré, très surveillé. Et puis, la présence très forte de la publicité faisait que les annonceurs avaient une grande influence et qu'il ne fallait pas choquer le public. Plus les programmes étaient familiaux, plus ils étaient consensuels, plus ils rassemblaient. Et donc, c'est une époque de télévision au plus petit dénominateur commun, comme on disait. C'est-à-dire qu'elle doit rassembler le plus de monde possible. Et dès que vous montrez de la nudité, eh bien, ça clive, hein, ça sépare. Et puis les parents vont être confrontés à la responsabilité vis-à-vis des enfants. Et donc, c'était vraiment pas la place dans ces premières décennies.
Mais par contre, on peut montrer, enfin, plutôt vers les années 80, des tits and ass, comme vous les appelez. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle.
C'est, ça,
hein,
ouais.
C'est les drôles de dames, des séries, ou, comme on dit, avec des femmes qui gloussent, quoi, en gros, et qui se trémoussent, quoi.
C'est ça, tits and ass. Donc, c'est une expression qui est utilisée. Donc, on va dire des nichons et du cul, si je le traduis littéralement. Mais évidemment, c'est pas aussi littéral. On voit la peau, on voit le corps, mais on ne voit pas les seins et les fesses. Mais c'est vrai que dans Drôle de Dame, par exemple, on voit des femmes en bikini, donc les corps sont plus dénudés, mais ça reste très limité, très restreint, parce que ce sont des femmes, essentiellement, des jeunes femmes blanches, donc c'est vraiment un cadre très très défini, c'est un système encore très très patriarcal. Et donc oui, le fait de se gosser, le giggling, là, le fait, voilà, sont des images qui sont censées, exciter un petit peu, aguicher le spectateur, mais avec des effets assez racoleurs, ouais, assez attractionnels et finalement un petit peu matu-vu. Et finalement, ce qu'on va beaucoup reprocher à une chaîne comme HBO par la suite, mais en fait, c'est plutôt à cette époque-là et sur ces grandes chaînes comme ABC que, bah, pour attirer le spectateur et puis faire un petit peu la différence, on commence à se libérer, à se livrer à des représentations plus sexuelles, mais quand même à destination majoritairement d'un public masculin.
Mm-hmm. Oui, mais pour le féminin, du coup, il y a Miami Vice, Magnum, le moustachu.
L'inverse est vrai aussi, il y a aussi une nudité partielle, hein, évidemment, plutôt des torses nus, pour plaire aussi à ces dames. Et encore, vous voyez, ce sont des visions très hétérocentrées, puisqu'on dénude les femmes pour plaire aux hommes et inversement. Mais évidemment, on sait bien que c'est plus. Il y a une fluidité qui est beaucoup plus large et que c'est pas si simple que ça. Donc, ce sont des visions assez schématiques, assez caricaturales. Mais oui, vous avez raison, c'est pas que les femmes qu'on dénude, mais je dirais qu'en proportion, c'est quand même beaucoup plus les jeunes femmes, parce que ça permet souvent d'inviter soit des guest stars ou plutôt des figurantes, des jeunes actrices qui viennent pour un petit rôle dans un épisode. Et qui vont accepter, parce qu'elles sont jeunes, elles sont peu connues, elles sont au début de leur carrière, de se dénuder pour le besoin de la production, alors que les acteurs vedettes dont on parlait là, par exemple Tom Selleck dans Magnum, c'est plus restreint, hein. Il ne va pas livrer une grande partie de son anatomie. Et donc, voilà, ce renouvellement constant des corps féminins, il est aussi dû à un système de production qui permet à des jeunes femmes, qui impose plus ou moins, ou qui incite, hein, des jeunes femmes à se dénuder pour jouer dans un épisode de série.
Mmh. Donc la nudité, c'est un tabou dans un premier temps, mais est-ce que le mot sexe lui-même, on le prononce ou pas dans les séries ?
Très peu, très peu. C'est un mot qui est lui-même tabou. C'est un mot qu'on va retrouver après dans les noms de séries. Et c'est vrai que quand on a vu la série Sex and the City, ouais, ça a marqué parce qu'il y avait le mot sexe, en fait, dedans. Ça peut paraître peu de choses, hein, mais en fait, c'est un mot qu'on pouvait pas prononcer en tant que tel, qui était aussi très, très retenu. Et maintenant, on a plus de séries aussi sur les plateformes qui reprennent ce mot sexe. C'est plus un tabou, finalement. On l'a annihilé, ce tabou, parce qu'il est employé de façon récurrente. Mais non, pendant très longtemps, même le mot sexe, qui est pas un mot indécent en soi, contrairement à des mots comme fuck ou des injures qu'on peut absolument pas prononcer, il fait pas référence directement à l'anatomie, mais pour autant, c'était un mot qui était quand même très peu utilisé. Ouais. Ouais, ouais.
Mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Je pense quand la série Elle World, elle est sortie, Elle pour lesbienne, on met pas le mot lesbienne dans le titre. Pourquoi ?
Parce que justement, mettre The Lesbian World, imaginez, enfin, c'est, ouais. Ouais, non, c'était pas imaginable. The L World, ça permettait de suggérer, en même temps, de garder ce mystère. Pourtant, là, on est sur une chaîne qui s'appelle Showtime, qui est une concurrente de HBO, c'est une chaîne du câble premium, qui peut y aller, qui a pas ces restrictions-là, qui est pas sous surveillance fédérale et qui a beaucoup plus de liberté. Mais bon, voilà, je dirais que pour cette série-là, c'était pas tant une limite sensorielle que plus une volonté de jouer avec cette restriction, avec ce mystère. En fait, ces chaînes-là, Showtime, HBO, etc., vont beaucoup s'amuser du fait que leurs concurrentes soient empêchées, ouais, et elles fanfaronner en quelque sorte en disant « Regardez, bah, chez nous, on peut montrer... » C'est vrai que dans The L-World, il y a quand même beaucoup plus de nudité, c'est plus explicite.
Mais est-ce que, justement, c'est ce que vous dites, hein, dans votre monographie, c'est que finalement, le tournant, il arrive avec l'apparition des chaînes à péage, quoi, qui, elles, sont moins soumises à la censure que des chaînes gratuites généralistes.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment le câble américain. C'est pour ça que mon livre est vraiment inscrit dans un système américain. On pourrait pas dire exactement la même chose de la France, ou alors il faudrait parler de Canal+, ou ça, qu'il y a quand même des parallèles, mais nous on a moins cette influence du câble en France, c'est plus diffus, et puis ensuite nous on a eu plus la TNT, mais qui est moins intervenante dans les séries. Aux États-Unis, c'est vrai que le câble, ça a changé énormément de choses, qu'en fait le nombre de chaînes a explosé. Pendant très longtemps, en fait, pendant, on va dire, trois décennies à peu près, vous aviez trois chaînes, ce qu'on appelait le Big Three, donc ABC, NBC, CBS, c'était les trois grandes chaînes, quoi. C'était un petit peu comme notre TF1, enfin, c'est comme, un petit peu comme chez nous. Et ces trois chaînes-là, finalement, s'alignaient les unes sur les autres. Ça ne crée pas énormément d'émulation. Et du coup, il y a peu de concurrence. Et en fait, ce qui va tout changer, oui, c'est l'apparition du câble. Dans les années 70 et surtout 80, où elles vont commencer à produire des choses progressivement. Pas tout de suite des séries, plutôt des documentaires ou des émissions de variété, un petit peu de films. Mais cette augmentation de chaînes va commencer à produire une émulation, et c'est vraiment à partir des années 90 que cette émulation va prendre forme dans la production de séries. Et quand je parle donc de HBO, c'est à partir des... Il y a eu quelques séries au début des années 90, comme Dream On, etc. Mais c'est vraiment à partir de la fin des années 90... que HBO commence à produire ses grandes séries. Et là, on voit effectivement de la nudité, du sexe plus librement. Et tout ça, ça va créer une émulation énorme qui va faire effet boule de neige chez d'autres, sur d'autres chaînes dans les années, à partir des années 2000, on va dire, sur le câble. Donc le câble, ça a été progressif. D'abord, une explosion du nombre de chaînes, concurrence, et puis la reconnaissance des séries aidant. Elles vont se positionner sur ce créneau-là et en produire à leur tour. Et à ce moment-là, on va retrouver de la nudité, du sexe dans ces séries.
La première fois qu'on en voit sur une chaîne gratuite, c'est dans un épisode d'une série policière, New York PD Blues, non, c'est ça ?
NYPD Blues. Ouais. C'est toujours difficile de dire la première fois, parce qu'évidemment, il y a forcément des occurrences préalables. C'est vrai que cet épisode-là dont je parle, il est au 2003, il me semble, début des années 2000, NYPD Blues. Il y a une scène qui a très fortement choqué, marqué, c'est que donc on voit une femme dans la salle de bain dénudée, et un enfant, c'est l'enfant de Sipowicz, donc le héros de la série, Andy Sipowicz, qui ouvre la porte et qui surprend cette femme adulte nue. Et donc là, on voit ses fesses, on la voit nue de dos entièrement. Pas frontalement, parce qu'il y a quand même des caches. Il y a des plans où il joue, elle est frontalement nue, mais la tête et les oreilles du gamin cachent les seins, les tétons. Donc on voit, il y a un jeu comme ça de préservation des parties les plus intimes. Mais quand même, ce qui a choqué, c'est la nudité. C'est surtout l'enfance, en fait. Ouais. On parlait du sexe, de la nudité, mais alors l'enfance face à la nudité, la protection des mineurs, ça, c'est un sujet qui est sensible aussi chez nous. Hein, c'est pas que américain, pour le coup. C'est un sujet très sensible. Et là, le fait que ce soit un enfant qui voit cette femme en même temps que nous, nue, ça a beaucoup choqué. Donc après, il y a eu des procès, c'est parti jusqu'à la Cour suprême, parce que des spectateurs se sont plaints, des parents notamment ont été choqués par ces images. Il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été envoyées. Bon, au final, la chaîne a été sanctionnée, mais ça n'a pas été vraiment le tournant qu'on aurait pu craindre ou que certains espéraient, c'est-à-dire de tout refermer, de tout brider. Mais du coup, finalement, ce qui a découlé de tout ça, c'est qu'ils ont créé une télévision à deux visages. En fait, il y a la télévision de jour et puis la télévision de nuit. À partir de 22h, on va dire, à partir de la deuxième partie de soirée, on peut être plus libre, on peut montrer plus de choses. Mais la journée, c'est ce qu'ils vont appeler le safe harbor. Donc le safe harbor, c'est une zone protégée où là, il faut y aller mollo. On peut pas montrer à ce moment-là, sur les grandes chaînes, hors câble, ce type d'image de nudité. Donc finalement, cette série, elle a introduit le décalage de ce type d'image à une deuxième partie de soirée, à une nuit, donc une sorte de télévision un petit peu clandestine, vous voyez, qui a quand même divisé en deux ce qu'on peut montrer à la télé. Et ça a quand même fait la force du câble, parce qu'eux n'avaient pas ces restrictions-là. Donc eux aussi, en première partie, pouvaient montrer ça.
Aujourd'hui, là, en 2024, enfin, au moment où on se parle, il y a encore des tabous, des choses qu'on ne représente pas dans les séries, hein.
Il y a toujours des tabous. Ouais. Il y aura toujours des tabous, évidemment. On peut pas tout montrer. Ça, c'est. Mais ça vaut pour notre vie de citoyen. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il y a des manières de se comporter qu'on ne peut pas avoir. On peut pas, par exemple, se balader dans la rue tout nu. Mmh. On aura un procès en indécence. On peut être attaqué. La limite, en fait, elle est légale. Elle est au niveau de l'obscénité. Donc après, moi, c'est ça aussi que j'ai étudié. Qu'est-ce que l'obscénité? Comment on la définit? En gros, pour faire très simple, aux États-Unis, l'obscénité, elle est équivalente à la pornographie. Hard, c'est-à-dire le sexe avec partie génitale, enfin voilà. Et donc être obscène, c'est se comporter de manière sexuellement très évocatrice, très provocante, très explicite. Ou alors c'est d'avoir des comportements totalement inappropriés en termes d'injures, d'insultes à la personne, d'homophobie, d'antisémitisme, etc. Donc toutes ces actions-là, évidemment, sont prohibées dans les séries télévisées. Donc après, c'est toute la problématique, c'est l'enrobage artistique de ces questions-là. C'est-à-dire, on peut pas être obscène dans une série, mais par contre, on peut étudier et questionner l'obscénité. Mmh. Si c'est dans un cadre artistique et que c'est pas pour la prôner, pour en faire l'apologie, mais pour la mettre en perspective, voire la dénoncer, évidemment, c'est un sujet passionnant. Mmh. Et pour moi, il faut l'étudier, il faut l'explorer. Et ça, HBO, entre autres, l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a de l'obscénité dans ces séries-là. Mais les séries elles-mêmes ne sont pas obscènes, à mon sens. Elles l'étudient, elles la questionnent. Et donc la pornographie, par exemple, maintenant, puisqu'on se parlait de maintenant en 2024, oui, ça commence à y trouver sa place, ouais. Mais de façon interrogative, pas pour faire du porno. Vous voyez, donc, par exemple, une série comme Game of Thrones, moi j'ai souvent entendu que c'était une série porno. En fait, non, c'est, à mon sens, c'est faux. C'est une série qui montre de la nudité, qui montre du sexe, mais qui se questionne aussi sur ce qu'est la possession d'un corps, sur la prédation, sur les rapports de domination. Si cette série se contentait juste d'exploiter, comme tout à l'heure on disait, du tits and ass, de faire du racolage, je ne pense pas qu'elle aurait eu le succès qu'elle a eu aujourd'hui.
Il y a aussi des pratiques dont on peut se servir pour amener de la comédie. Je pense à des épisodes de Californication, par exemple.
Sure. La comédie, c'est le temple, à mon sens, de l'allusion et du jeu avec la nudité et la sexualité. C'est même un plaisir. Prenez une série comme Friends. Pas plus tard que avant-hier, je montrais à des étudiants, je remontrais la première scène de Friends, vous voyez, pour travailler sur la sitcom. Qu'est-ce que c'est que la sitcom? Première scène de Friends, premier épisode, il y a des allusions sexuelles, mais très claires, sur le fait que la femme de Ross soit partie avec une autre femme. Voilà, on ne dit pas lesbienne, on ne prononce pas ces mots-là, etc. Mais en fait, on comprend bien. Tout passe par l'allusion. Les personnages sont sans cesse dans l'exploration de leur libido. Et Friends, c'est une série dont les créateurs avaient créé Dream On précédemment sur HBO, qui était plus dénudée, qui montrait davantage de nudité. Friends, évidemment, ne pourra pas faire ça, mais va le contenir, ça va travailler la série de l'intérieur. C'est ça, moi, que je trouve passionnant. Et c'est pour ça que la forme sitcom, elle perdure aussi et qu'elle existe encore aujourd'hui. Sitcom, comédie. Ouais. Et elle est très intéressante, notamment parce qu'elle va travailler tout ce qui se passe sous la ceinture, tout ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de montrer. Ah, vous voulez pas qu'on montre? Bah, vous allez voir. On va montrer les gens, dans leur esprit, ils vont créer ces images. Ouais. Ces images, elles vont être mentales. On va pas les voir, mais on va les imaginer. C'est encore plus fort.
Mais de la même manière, vous décryptez parfaitement un épisode d'Ally McBeal, justement. Série grand public par définition, avec une scène de cappuccino qui est hallucinante. On reprend les codes du porno.
C'est une scène extraordinaire. Ouais. Moi, je suis amoureux de cette série parce que, justement, elle est très, je trouve qu'elle est très sensuelle et sexuelle, mais je le dis vraiment dans le sens vertueux du terme, parce que maintenant quand on dit ça, souvent tout de suite on en passe pour un dégueulasse, etc. Et non, moi pour moi c'est une série, elle est écrite par un homme qui s'appelle David Ekiele, mais elle sonde de la vie, le plaisir, le désir féminin à mon sens de façon très très fine et très très subtile. Et cette scène est extraordinaire parce que il y a tout en fait. C'est une dégustation de cappuccino où Ali explique à son amie Georgia, elles sont là, c'est le matin, elles n'ont pas leur café, elles peuvent pas commencer la journée de boulot s'il n'y a pas le cappuccino. On a un peu l'analogie qui commence là, et puis elle récupère donc des tasses de cappuccino et Ali fait une démonstration à Georgia de la manière dont il faut déguster le cappuccino, parce que Georgia elle récupère son gobelet et puis elle s'apprête à le déguster d'une traite quoi, et Ali lui dit non, surtout pas, ne fais pas ça, pense à la manière dont les hommes négligent les préliminaires et vont tout de suite à l'essentiel. Et donc c'est à la fois implicite et explicite, parce que l'analogie est clairement évoquée. C'est pas simplement une vue de mon esprit d'avoir vu ça, parce que c'est dit dans la scène. Ali l'explique. Mais après, il y a tout un jeu sur la dégustation, sur la rétention, le fait d'y aller par petites gorgées, puis de reposer le gobelet, d'y retourner jusqu'à l'extase finale. Il y a tout un tas de petites touches humoristiques sur le mouvement quand même des mains de haut en bas, de va-et-vient sur les gobelets, qui est quand même assez explicite. La mousse qui s'échappe du gobelet à la fin, qui évidemment était très évocatrice aussi. Et ce qui est très très fort dans cette scène, c'est que ça se joue entre deux femmes, mais il y a aussi le regard des hommes. Mmh. Et le fameux male gaze là, qu'on diabolise et qu'on caricature beaucoup, je trouve, là dans cette scène-là, il est pensé justement de façon à ajouter un point de vue supplémentaire. Et du coup, ça démultiplie les combinaisons possibles d'hommes qui désirent des femmes et de femmes qui, entre elles, face à face, y a aussi un désir qui se produit de l'une à l'autre et qui sont en train de repenser les préliminaires masculins. Donc il y a une relation à distance entre ces deux messieurs et ces deux femmes via le gobelet de cappuccino, tout en introduisant la possibilité de relations de même sexe entre ces femmes et entre aussi les hommes, parce que Billy tend le gobelet à Fish, à un moment, c'est aussi comme une proposition pour faire ce que sont en train de faire les filles. Donc, voilà, c'est une scène extraordinaire qui montre absolument zéro nudité, mais par contre qui filme de tellement près la peau. Et ça aussi, on montre peu, moi je trouve, la peau de très près dans ces séries, qui n'est pas pour le coup censurée, parce que ce n'est pas ce ne sont pas des parties sensibles du corps, mais montrer un visage de femme de très très près, c'est très très sensuel aussi. C'est très beau, moi je trouve, sans être vulgaire ou racoleur ou quoi que ce soit.
Il y a quelque chose qui est, sur lequel j'aimerais venir, c'est la jouissance féminine. En fait, elle est très peu présente à l'écran.
Elle est assez peu présente, ça commence un petit peu à changer, parce qu'on sent vraiment qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, on a parlé de Weinstein, de MeToo, etc. C'est vrai qu'il y a une forte volonté, je trouve, de féminiser le plaisir. Et du coup, il y a de plus en plus de scènes de cunnilingus, notamment. Et aussi dans les séries françaises, on en a vu de plus en plus apparaître. Je vous renvoie un article d'Audrey Fournier sur Le Monde, où elle revenait sur le cunnilingus, qui est une sorte maintenant de passage obligé, alors que c'était l'inverse avant. Son article est très intéressant là-dessus. Mais c'est vrai que de manière générale, pendant très longtemps, ça a été très peu vu. Et il y a plein de raisons à ça, parce que c'est aussi d'ordre pratique. Je dirais très, très, très bêtement, mais la scène classique, c'est la scène de couple hétérosexuel en missionnaire. Et puis finalement, ça se termine quand... soit ça se termine parce qu'on a coupé, souvent on n'a pas la fin. Soit ça se termine par le plaisir masculin et par la jouissance masculine. Mais finalement, le plaisir féminin dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est? Ou alors, c'est joué de manière comique par des cris, des gémissements extrêmement exubérants. Je pense à une scène dans Desperate Housewives, par exemple, où voilà, les cris de plaisir s'expriment. Et il y a une scène qui m'a vraiment fasciné sur les chaînes premium, c'est dans une série qui est moins connue, qui s'appelle The Girlfriend Experience. C'est une série qui a été en partie réalisée par Lodge Kerrigan, un réalisateur indépendant qui est assez fascinant, et qui lui vraiment s'est entendu avec ses actrices. Ils ont beaucoup discuté en amont du projet pour savoir si tout était ok, si elles étaient d'accord pour jouer ce rôle. Il a écrit la chose telle quelle, donc il n'y avait pas de faux semblants sur le fait qu'il faudrait se dénuder, etc. Il les a surtout pas pris par défaut. Et une fois que ça a été mis sur la table, il a installé un système de tournage où lui, finalement, se tenait à distance. On laissait la caméra tourner, tout était, les mouvements de caméra étaient préparés pour qu'on n'ait pas à couper, à dire attention, là, t'avais la main là, il faut que tu te remettes en position, etc. Parce que ça, c'est horrible pour couper la spontanéité. Et donc, cette scène, elle a été tournée dans la durée. Entre les actrices dans leur bulle, lui s'est extrait de tout ça et il n'est pas allé du tout les perturber, et même après il les a laissés tranquilles. Donc c'est vraiment pour moi un rapport de confiance extrêmement fort, extrêmement adulte pour le coup, qui va à contre-pied de... Mais il n'y a pas qu'une seule façon de faire, ça va à contre-pied des coordinatrices d'intimité, du fait de vouloir tout chorégraphier et tout découper. En fait, il y a quand on lit les témoignages, il y a plusieurs manières de faire. On ne peut pas forcer les gens à faire d'une manière, il faut que chacun trouve ce qui lui correspond. Et voilà.
Vous venez de citer le terme coordinateur d'intimité, ça c'est quelque chose qui est apparu sur les plateaux de tournage aux États-Unis essentiellement, suite à l'affaire Weinstein, suite au mouvement MeToo. On peut préciser ce que c'est réellement?
Alors les coordinatrices sont des professionnels qui maîtrisent des disciplines assez variées, quoi, en psychologie, aussi dans le travail du corps, en physiologie, enfin, je dirais qu'il y a plusieurs aspects dans ce métier-là. Et souvent, on comparait ça aux cascadeurs pour les scènes de combat. Parce qu'on disait, voilà, pour les scènes de combat, on fait appel à des cascadeurs. Pour les scènes avec des animaux, on fait appel à des spécialistes en animaux. Pourquoi pour les scènes de sexe ou de nudité, on n'aurait pas des spécialistes aussi? Et donc, c'est très utile pour les actrices qui en ont besoin, pas toutes, mais celles qui le désirent, d'avoir une interlocutrice à laquelle elles vont pouvoir parler. Avant, après la scène, s'il y a des choses qui vont pas, etc., elles vont se confier à elle. Et c'est cette interlocutrice qui va faire la passerelle avec le réalisateur, les producteurs. Donc l'actrice ne va pas être en confrontation directe avec des gens plus âgés, plus expérimentés et qui tiennent les cordons de la bourse, ce qui est très intimidant et plus élevé hiérarchiquement qu'elle. Elle va en parler à la coordinatrice qui, elle, va aller discuter avec les producteurs. Du coup, voilà, c'est une personne qui fait l'intermédiaire et qui peut être en position, elle, de discuter. Après, souvent, les coordinatrices d'intimité se sentent un peu attaquées en disant, voilà, ça va brider les tournages, ça va tout empêcher. Elles expliquent que c'est pas leur rôle, elles sont pas là pour imposer une chasteté, pour empêcher les scènes les scènes plus sensibles, mais pour faciliter leur tournage et pour qu'il n'y ait pas de problème.
L'histoire est un éternel recommencement. Est-ce qu'on va revenir, peut-être, un jour, à des séries où il n'y aura plus de sexe du tout?
Ben, c'est une des grandes questions que je me pose aujourd'hui, parce que du coup là ce livre est paru et j'ai essayé de l'actualiser jusqu'au dernier moment, mais à un moment il faut bien lâcher l'affaire, et donc vous commencez à voir l'après de ce que j'ai écrit et tout doucement, et donc les plateformes de streaming notamment, qui sont évidemment très, j'allais dire dominantes, très présentes, pas forcément dominantes parce qu'il y a encore le câble premium, mais elles sont très présentes, et la question c'est que vont proposer ces plateformes, et je me dis que elles ont une grande liberté aujourd'hui, parce que en termes d'encadrement, on sait bien que le web est assez libre et qu'il n'y a pas autant de surveillance que pour l'audiovisuel, pour la télévision notamment aux États-Unis. Mais pour autant, ces plateformes généralistes, en tout cas les grandes plateformes, elles visent quand même un public très large. Donc elles ont une visée familiale qui renoue avec la télévision des premiers temps. Et puis il y a aussi la concomitance du porno en accès libre, gratuit. Finalement, en deux clics, on est sur des tubes de porno. Et donc finalement, il y a plus cette distance qu'avait le câble vis-à-vis du porno qui l'incitait justement à le montrer, à le questionner, à en jouer. Là, c'est comme c'est coprésent, j'ai l'impression que ces plateformes, elles ont moins intérêt à aller vers ce type de représentation.
Très bien, bien, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Benjamin Campion. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Histoire sexuelle des séries américaines, une somme parue aux éditions Leitmotiv. Merci pour cet entretien.
Merci beaucoup à vous, à bientôt.